Bonsoir.
Bonsoir André.
Bonsoir André.
Bonsoir Daniel.
Salut les André.
Alors après un démarrage en douleur.
On a failli démarrer en retard parce qu'on a eu pas mal de soucis techniques.
Ouais, finalement on est pile à l'heure, mais vraiment c'est miraculeux.
Et puis quand même, bonsoir public chéri.
Oui, donc comme vous le constatez, des nous oreilles avec des trous.
Nous ne sommes pas seuls ce soir.
Reçoit un invité prestigieux aujourd'hui. Il s'agit de Daniel Casimir, tromboniste, né à, tu me corriges si je prononce mal, Zell, en Allemagne, près de Hambourg, c'est ça?
Oui.
Voilà.
C'est là où Bach a appris les danses françaises.
Et, c'est vrai?
Oui. Oui. Tu peux nous faire une démonstration ou...
Non, il était orphelin chez son oncle à Lunebourg, qui faisait partie de l'orchestre du château à Zelle. Et le chef d'orchestre, c'était un Français qui aimait bien le petit gamin Bach et qui lui a appris le danse français. C'est pourquoi, dans les pièces pour violoncelle et luth et violon et tout ça, on a des sarabandes, des courantes, des choses comme ça.
Des danses françaises aussi. Ouais. Mmh. Donc tu es né dans un environnement tout à fait.
Je sens qu'André est parti pour la biographie là. Vas-y.
Oui, oui, je me lance dans la roue. Alors, parce qu'il y a peut-être des auditeurs qui ne connaissent pas Daniel Casimir. Bon.
Je vais me calmer parce que des anecdotes, j'en ai trop. Parce que pour la radio libertaire, c'est peut-être aussi intéressant. Si quelqu'un veut se moquer de la police en Allemagne, il parle aussi de Zelle. Parce qu'à l'époque du terrorisme de l'extrême gauche, il y a un deuxième château à Zelle. Il y a deux châteaux. Le deuxième, c'est une prison. C'est une prison où ils ont mis tous les terroristes de l'extrême gauche à l'époque. Et pour simuler que... pour infiltrer quelqu'un dans la scène du terrorisme, ils ont simulé une évasion. Et la police a donc bombé un trou dans cet ancien château. Et le lendemain, dans la presse, c'était tellement mal fait que tout le monde s'aperçut. Il y avait écrit voilà, la police bombe un trou dans le château et tout ça. Donc, si quelqu'un se moque de la police en Allemagne, il parle du trou de Zelle.
Le trou de Zelle. Donc, tu es né dans le trou de Zelle. Et voilà. Et donc, Daniel Casimir est tromboniste. Alors, on verra aussi un peu très bientôt qu'il est aussi compositeur. Alors, pas. Et pas seulement de thèmes de 32 mesures. Donc, Daniel a été un élève du grand tromboniste Albert Mangelsdorf, qu'on entendra peut-être, qu'on a déjà entendu
dans une
émission
beaucoup,
et qu'on réentendra sans doute aujourd'hui. On t'a entendu aussi, enfin, bon, peut-être pas mal de gens connaissent le Julien Louraud Groove Gang, même si pour toi c'est une histoire un peu ancienne, c'était quand même une chouette aventure et à laquelle tu participais. On a passé aussi dans une émission il n'y a pas très longtemps ton sorte de mini fanfare, le Wonder Brass Factory.
Ah oui, je me souviens, c'était super. Ouais.
Voilà, bon, en fait, tu as joué avec beaucoup de monde. Et aujourd'hui, en fait, c'est Daniel donc, qui va. Nous, on n'a rien fait, c'est vraiment peinard pour nous.
Daniel est venu avec une thématique.
Voilà. Alors c'est... présente-nous cette thématique. En fait, on te laisse le soin de la présenter.
Pour rentrer dans le cadre de votre façon de présenter, j'avais proposé d'appeler ça le plaisir solitaire. Mais en fait, il s'agit tout simplement de morceaux solo pour des instruments qu'on n'a pas trop l'habitude d'écouter tout seul, d'entendre tout seul. Donc il n'y a pas de piano. Et vous allez voir ce que vous allez voir. Entendre ce que vous allez entendre.
Alors,
oui.
Non, je t'en prie.
On va attaquer. On va commencer par écouter ta musique avant que tu nous fasses écouter des choses différentes que tu as envie de mettre en parallèle ou de moins de développer. Et on commence par quoi alors? Qu'est-ce que tu nous fais écouter?
En fait,
quelque chose de tout neuf.
Ça tombe justement bien dans le cadre de cette thématique. C'est un disque qui va partir à l'usine demain et qui sortirait de l'usine dans, je pense, deux semaines ou quelque chose comme ça. Et qui va être tout fraîche. C'est un disque, c'est la première fois pour moi que je sorte un disque sur lequel je ne joue même pas. Elle sort sous le nom de Bruno Nouvian, qui est un grand trompettiste français classique. Peut-être pour moi le trompettiste français classique actuellement. Mm-hmm. et qui m'a fait l'honneur de jouer la musique que j'écris pour trompette pour, dans le cadre de musique classique contemporaine. Et le truc qu'on va entendre, c'est une suite de quatre danses qui sont inspirées par un souvenir. J'ai pu faire la souris dans une phase de travail d'une super danseuse à Cuba. Et donc le premier morceau, c'est un peu, on ne sait pas très bien quoi, s'il commence déjà à répéter ces trucs ou si c'est un peu plus le balancement qui après se précise un morceau. Deuxième morceau qui au niveau de technique compositoire est bien plus contemporain, sous le principe plus de pur et dur de musique contemporaine, qui fait résonance à certains passages très techniques qu'elle a travaillé après. Un troisième mouvement qui fait résonance à des mouvements extrêmement intenses et très doux, très peu, mais très intenses, qui m'ont inspiré un petit peu la solitude. Et puis un quatrième mouvement qui nous ramène un peu vers le monde extérieur. Voilà, les quatre silences où nous nous verrons à la trompette.
Et excuse-moi, juste, ça s'intitule comment ?
Solo danse.
D'accord.
Wah, wah, wah.
Solo danse, donc.
De Daniel Casimir, interprété par
Bruno Nouvion. Bruno Nouvion.
Daniel Casimir ici présent, pour ceux qui prendra l'émission en cours de route.
Alors qu'est-ce qui t'a... Est-ce que tu nous as expliqué la raison de... Qu'est-ce qui t'intéresse tant dans le solo et qui t'a amené à choisir ce thème et à composer cette pièce?
Moi, je pense que l'attitude de quelqu'un qui fait une pièce en solo avec un instrument pour lequel ce n'est pas évident, et aussi du compositeur qui écrit pour, c'est assez particulier. On véhicule une autre énergie, une autre partie de sa personnalité. Et pour l'auditeur, c'est une occasion de rentrer dans un autre dialogue avec soi-même. Un dialogue inconscient, évidemment. Et je pense carrément dans l'opposé de l'air du temps. Là, on rentre dans des zones de la musique qui m'intéressent beaucoup, mais qui actuellement, la musique, on l'apprécie surtout pour se retrouver dans des contextes très sociables et tout ça, mais le potentiel de plonger dans ses propres sphères intérieures d'une façon complètement intuitive et non intellectualisée, Elle est un peu négligée dans tout ce qui est représentation musicale actuellement. Et je pense que les pièces solo d'instruments pour lesquels ce n'est pas évident, c'est un peu le moment le plus intense pour obtenir ça.
J'imagine aussi que déjà à l'entendre sur disque, on se sent très proche de l'interprète, de la musique aussi, mais déjà physiquement de l'interprète. En concert, c'est encore plus frappant, je pense. Pour un instrument monophonique comme ça, soliste, l'écoute, du moins l'oreille s'attache beaucoup plus à des détails, même je dirais presque à des détails extra-musicaux, des sensations presque charnelles de l'instrumentiste avec son instrument. Et ça, c'est assez agréable pour ça aussi, et notamment enfin, l'instrument embouchure, peut-être encore plus même qu'une hanche, ou en tout cas là précisément. Mmh. Je trouve que c'est assez frappant. Et pourquoi la trompette et pas le trombone ou un autre instrument
Donc là, en l'occurrence, j'avais la chance de pouvoir travailler avec un trompettiste qui est vraiment terrible pour nous. C'est un extraterrestre, la trompette. J'avais écrit une plus grande œuvre de 50 minutes, en fait, un concerto qui est en vérité une suite de 3 concertos pour lui et orchestre d'harmonie. Et tout ça va sortir sur le même disque bientôt. à la suite, il m'avait suggéré de lui écrire quelque chose pour lui seul. J'avais ce souvenir très fort de cette répétition de la danseuse et tout ça. Et donc, du coup, les deux choses se sont mises ensemble et c'était devenu évident que c'était le moment de travailler sur ces genres de sensations. Et donc la trompette, c'était un peu pour raison d'une rencontre.
Mmh. Et alors sur ce disque, on trouvera donc aussi, tu dis, la trompette avec un orchestre d'harmonie.
Oui, voilà, avec l'orchestre des gardiens de la paix, qui est peut-être la top harmonie.
Ouais.
C'est assez petit particulier qu'au milieu.
C'est un excellent orchestre.
C'est un excellent orchestre, le milieu des harmonies, c'est ça, c'est particulier. Et donc, ça, c'est un des rares harmonies professionnelles, en fait.
Ouais. Mmh.
Ils sont excellents, avec Philippe Ferraud comme chef, et je les remercie beaucoup.
Mmh. Ouais, sinon, par rapport au fait de l'instrument seul, je pensais aussi au fait que tu jouais pas mal avant, peut-être aussi encore maintenant, mais j'ai l'impression moins, dans des contextes très festifs, assez déconnants, enfin, de grande qualité musicale aussi, mais le côté collectif et bande de copains aussi avec le Wonder Parts Factory.
Et j'adore aussi, toujours ça, oui.
Oui, bien sûr, oui. Mais aussi, là, tu as beaucoup écrit apparemment récemment, et ça, c'est vraiment un travail solitaire aussi. Non ?
Oui, absolument. Mais j'ai toujours eu ces deux besoins. J'ai absolument besoin de faire des trucs festifs et rentrer dedans, et même pas vraiment bruyant, et des choses comme ça. Mais j'ai vraiment besoin aussi de me recentrer, rentrer en dialogue avec la complexité de ce que ça peut être un être humain, en l'occurrence moi. voilà, je pense que c'est complémentaire et l'un a besoin de l'autre.
Alors malheureusement, on va pas continuer avec ton répertoire, avec ta musique, bien qu'on en ait déjà écouté. Je pense que ce sera l'occasion, le fait que tu sois venu nous voir, ce sera l'occasion d'écouter peut-être plus tard dans des émissions libres où on n'aura pas de thématique des disques qu'on aurait eu envie d'écouter ce soir. Mais donc maintenant, on va plutôt essayer de... Enfin, on va t'écouter, nous passer de la musique.
J'aimerais bien quand même, c'est bêtement technique, mais que tu nous dises qui fait ce disque.
Voilà, c'est Édition Passion. C'est un label qui produit la musique que personne ne veut, notamment la musique de cuivre, ouais. Musique classique contemporaine. Donc, ils ont un énorme mérite à faire ça. C'est Bertrand Duhamel qui fait ça, notamment. Et c'est grâce à lui que cette disque peut exister. Mmh. C'est quelque chose qui est à l'opposé de tout ce qui peut être commercial ou vendable. Par contre, je pense que ça va être très bon. Donc, ça, c'était malheureusement, on ne continue pas avec mes choses, mais heureusement, on enfonce les clous, parce que là, je vous propose d'écouter Tirout Yabatim Lik, on m'excuse pour mon pauvre accent, en éthiopien, chanté par une chanteuse qui je trouve terrible, c'est la seule chose que je connais d'elle, elle s'appelle Ejigayehu Gigi Chibaba.
Magnifique accent, vraiment bravo.
On n'aurait pas fait mieux.
Et c'est
Nico, pardon. Oui, un ami, bref. Qu'on a rencontré tout à l'heure.
Ouais. Donc c'est une chante d'amour qui se trouve sur un disque de Okura, c'est des chants d'amour éthiopiens.
On écoute. Lemonu tukaral le biantan tarbona ayne yenafak ya farasuna dukana ayekut ya farasuna dukana ayekut kotewun samahut samahut lakas galbo hido alloyne inda farawt
Yeah.
C'est formidable. Fort,
ouais, ça commence très très fort.
Alors, avec quoi tu as enchaîné on a entendu une chanteuse éthiopienne, puis quelque chose, un enchaînement de ton cru.
Le fabuleux Ernst Reisiger, un violoncelliste hollandais que j'aime beaucoup, un néerlandais. C'est un extrait de son terrible disque Colaparte, qui est sur le label Winter et Winter. Donc, il est tout seul pendant tout le disque. C'est un morceau qui s'appelle Toccata en italien. Toccata, ça veut dire toucher. Et donc, ça lui a inspiré des attouchements.
Ouais. On est proche du tombak ou du...
Oui, exactement.
Je me demandais quelle est cette percussion. Ça n'a pas l'air d'être une peau.
Ça dépasse tellement l'anecdotique. Quoi. Il y a tellement de bassistes, de guitaristes qui touchent un petit peu le truc. Mais lui, il a carrément... Il en va de la musique avec ça. Et ça dépasse.
Mais il a un peu étudié... Enfin, il a beaucoup travaillé la percussion. C'est pas juste le type qui arrive et qui tapote sur son violoncelle.
Je pense, oui.
Il a
beaucoup aussi étudié la musique africaine, c'est pour ça que ça s'enchaîne aussi bien, je pense, parce qu'il a aussi fait un disque en duo avec un chanteur sénégalais et des choses comme ça, quoi.
Moi, j'avais gardé je l'ai vu une seule fois en concert, dans un groupe, j'avais gardé une impression vraiment phénoménale de ce type. Il avait une espèce de simplicité et en même temps de justesse dans son jeu, dans son attitude, tout qui dépassait de loin, mais de très très loin, tous les autres musiciens qui jouaient avec lui. C'était absolument fantastique. C'était son divers, il y a, je sais pas, 5-6 ans. Et je suis très content d'écouter ça parce que j'avais justement cherché à plusieurs reprises à écouter ce qu'il avait fait tout seul ou avec d'autres.
Et,
merci.
Et dans ce disque, il joue des pièces de qui c'est le répertoire
c'est, je pense que c'est toutes ces pièces à lui. Ah ouais, je croyais aucune exception, d'accord. Si je me rappelle bien.
À part une, c'est... Qu'est-ce que je viens de le voir et j'ai déjà oublié. C'était... Voilà. Je vais retrouver à la dernière page. Là. C'est tout à la fin. Voilà. À part une pièce de Abdoulaye Ibrahim, de Dollar Band.
Ah, oh, formidable. Ouais. Laquelle
Gwitsa.
Ah, je vois pas. Alors, je vais me précipiter
donc,
sur ce disque.
J'allais dire, c'est mon raison de l'acheter, ouais. Les disques. Ouais. Parce qu'en plus, c'est une label qui s'est fait virer de son distributeur, oui. En France actuellement. Donc, heureusement, ils ont trouvé un nouveau, mais tout, ouais. Petit. Donc, il faut se porter à moi.
C'est vrai, il n'y a plus Winter and Winter est moins bien distribué.
Oui, ça serait probablement.
Ah, c'est vraiment.
C'est un label fantastique.
Ouais, c'est déprimant.
Très bien.
Et la chanteuse éthiopienne, que pensez-vous?
Ah oui, mais fantastique. Alors, c'est qu'est-ce que c'est plus précisément? Parce que tu nous as juste dit que c'était une chanteuse éthiopienne, mais est-ce que tu peux nous en dire plus?
Je lis les notes. Oui, tu veux dire
oui,
un truc?
Oui, j'ai lu la note aussi pendant mon... C'est une chanson d'amour. Elle se languit de son amant. Ouais. Et en même temps, elle décrit les paysages.
C'est vrai qu'on aurait presque pu le deviner. Hein.
Oui.
Extrêmement sensuelle.
Je trouve ça hallucinant comment elle travaille sur le timbre. Parce qu'elle utilise une seule gamme dans le morceau. C'est tonalement extrêmement à la limite répétitif. Mais genre la classe avec laquelle elle développe ça sur toutes les
couleurs.
Comment elle envahit des couleurs différentes. C'est très proche de ce qu'on cherche des fois dans la musique contemporaine maintenant. Je me scotche.
Bon, alors ça commence très très fort.
Est-ce que tu vas pouvoir tenir la cadence?
Je pense que oui.
Incroyable, ça, il est vraiment incroyable.
Et je vous propose d'enchaîner avec une autre pièce pour violoncelle seul. C'est une pièce absolument pas revendiquée en France, de Gueorgui Ligeti, qui s'appelle Sonata for Cello Solo. Et on écoute le deuxième mouvement qui est un capriccio. Thank you.
Ilbé.
Eh ben.
Alors j'avais jamais entendu parler, jamais entendu cette pièce de Ligeti. Enfin, pourtant, sans être un spécialiste, c'est un compositeur que j'aime beaucoup et que j'écoute beaucoup, mais j'avais jamais entendu cette pièce. Elle date de quand ?
Elle date de 53.
D'accord, ouais. Donc à la même époque que les six bagatelles.
Absolument, oui.
Enfin, les 12, en fait. Ouais, les, oui. Je ne sais plus. Enfin, bon, bref, les bagatelles.
Ouais. Et en fait, j'ai oublié de dire, c'était David Geringas qui l'a joué. Hein. C'est important
ouais.
aussi.
C'est assez important, oui. Effectivement. C'est notable.
Donc, c'est une pièce très peu donnée et j'ai plein d'amis qui m'ont dit qu'ils ont redécouvert Ligeti quand, à l'occasion de son 80e anniversaire, il y a des intégrales qui sont sorties, ou par exemple, ça c'est extrait d'une série qui ouais. s'appelle Ligeti Project qui est sortie, c'est une CD, je ne sais plus, 7 CD ou quelque chose comme ça, des œuvres choisies par Ligeti. Et donc, on découvre plein de choses qui ne seront jamais revendiquées en France parce qu'on essaie de donner une impression presque unie stylistique de ce que c'est la musique contemporaine. Et donc, il y avait certaines œuvres de Ligeti qui rentrent dans ce cadre-là, qui étaient revendiquées, certaines autres qui ne rentrent pas du tout et qui ne sont pas revendiquées du tout. Même des œuvres bien plus tardives, ça n'a rien à voir avec l'époque.
Et en plus, pour l'anecdote, il me semble que tu m'avais dit que dans l'école où tu étudiais la composition, Ligeti, très jeune, Ligeti était venu faire des masterclass ou je ne sais pas quoi.
C'était pas tout à fait ça, mais à cause d'avoir gagné un prix de composition très jeune, j'ai pu participer à un masterclass de Ligeti.
Ah oui, c'est ça. Ça t'avait marqué déjà.
Ça m'a forcément marqué. J'ai pas ouvert la bouche le week-end. J'étais, comme tout à l'heure avec la danseuse, petite souris dans la pièce. Et j'ai profité de... C'est ça, quoi. D'un grand maître qui parle d'être contemporain par introduction et pas par exclusion.
Et oui.
Ça, c'est la classe qu'on phrase. Parlant de gens que j'ai pu rencontrer, on peut enchaîner avec Albert Mariettsdorf. Tout à l'heure, dans la pièce pour trompette, vous avez entendu le trompettiste chanter au même temps.
On entend rarement ça en trompette.
C'est extrêmement rare aux trompettes. Parce que du coup, surtout, il faut inverser pour le monsieur, en tout cas. Du coup, on chante plus bas et on joue plus haut, contrairement au trombone du tuba. Je vous propose d'écouter Albert Mariettsdorf, qui malheureusement donc, nous a quittés, avec un extrait de son dernier disque en solo. Et donc, l'émission s'appelle...
plus solitaire,
le morceau s'intitule The Horn is a Lady. Avec un morceau de François Thuillier qui était aussi très inspiré par Albert. Et j'ai volontairement mis un morceau qui était très différent, qui était plus proche de certaines choses qu'Albert a fait auparavant pour faire un contraste. Et j'ai trouvé ça, ces deux-là, ils s'enchaînaient très très bien. C'était le morceau Somica 880 de François Thuillier.
Alors Albert Mangelsdorf, c'est vraiment complètement... Ça, c'est très tardif, cet enregistrement.
C'est un disque qui s'appelle Purity et qui est son dernier disque solo, qui n'est pas distribué en France. Vive la FNAC. Il faut la chercher sur Internet. Ouais. C'est quand même monsieur duquel Duke Ellington a dit que c'était le musicien le plus important dans l'histoire du jazz venu de l'Europe. Pas distribué à la FNAC.
Ouais.
Eh oui, voilà.
Mais donc Purity, que je vous recommande très chaudement.
C'est un disque solo en entier ? Oui. Tout le disque est en solo ?
Absolument. Ouais. C'est alors le Mood Record.
Tout à l'heure, on discutait un peu avant l'émission, tu disais qu'il n'y a encore que lui qui soit capable de faire des choses comme ça. Parce que j'ai un peu cette image que c'est le premier surtout, et qu'après, il y a quand même pas mal de gens qui ont dû enchaîner en travaillant ces techniques.
Absolument, oui. Et beaucoup de gens, moi inclus, ont travaillé cette technique-là. Mais lui, il le pousse à un degré. En fait, la question, c'est quand tu chantes, et quand tu joues une note, ça provoque des autres notes, des harmoniques. Ouais. Mmh. Et en fait, la note qui te chante a une gamme d'harmoniques, la note qui te joue a une gamme d'harmoniques. Et là où il se croste, ça provoque des troisièmes, quatrièmes notes. Et lui, il arrive à maîtriser et contrôler ça jusqu'à quand on peut vraiment clairement identifier 7-8 notes.
Ouais, parce que là, il y a des harmonies magnifiques. Enfin,
ah, ouais.
Et il fait ça avec une précision absolue. La plupart des gens font ça beaucoup plus aléatoirement. Mm-hmm. Lui, c'est extrêmement précis harmoniquement. Il est extrêmement précis dans la balance entre la note chantée et jouée qui fait que les harmoniques sortent autant.
Avec le bon dosage.
Voilà. Ouais. Donc il y a des accords qui sortent, en tout cas aussi clairement. Il n'y a personne d'autre qui est capable de faire ça.
Alors, si je ne m'abuse, il a eu des problèmes de santé, c'est ça. Et puis à la fin de sa vie, il continuait à jouer, mais il y a certaines choses qu'il ne pouvait plus faire, c'est ça.
Oui, vu qu'il était âgé, il a eu plusieurs reprises de problèmes de santé. Et donc, du coup, il a très intelligemment géré sa vieillesse de musicien, justement en concentrant sur les choses qui ne sont pas spécialement sportives. Avant, il a fait aussi évidemment des trucs qui groovaient très rapidement. Et il a fait beaucoup de listes de solo avant, qui sont des trucs beaucoup plus sportifs dans la vitesse, ça. Par contre, lui, il s'est vraiment spécialisé sur ce qui fait sa différence. Ça reste quand même très physique pour une personne qui a, je ne sais pas, à l'époque, il avait, je crois, 72 ans.
Ouais, c'est quand même assez incroyable.
C'est pas du tout évident physiquement, mais en même temps, il a très volontairement, je pense, fait une croix sur des excès de vitesse et des choses comme ça. Malheureusement, tout le monde n'a pas su gérer ça aussi
bien,
consciemment que lui.
Oui.
Et François Tuilier, alors qu'on a écouté juste après.
Donc ça, c'est un grand ami avec qui je travaille beaucoup et qui est extrêmement inspiré par Albert. C'était une bonne occasion de le caser.
C'est lui qui joue dans le Wonder Factory Brass Band.
Absolument, dans le Wonder Brass Factory.
Ouais. C'est un groove terrible.
Ouais, ouais, ouais.
C'est terrible.
C'est un groove terrible aussi à côté de lui.
Très beau groupe. Et Franck Vaillant.
Et Franck Vaillant, bien sûr. Ouais.
Évidemment.
Incroyable, Franck Vaillant.
Vous voulez enchaîner ?
Allons-y, enchaîne donc.
On encaisse.
Je vous propose
cette émission, on fait rien. Je rappelle au cas où qu'on invite donc Daniel Casimir et que vous écoutez Radio Libertaire.
Voilà, 89.4 à Paris.
Je vous propose de découvrir un instrument qui, sous des noms différents, se trouve en Asie et notamment en Thaïlande. Il se trouve sous le nom de Kaen. Et c'est une espèce de. Comment tu décrirais ça ?
Orgabouche.
Voilà.
Il y en a un ici,
Je vais...
dans le studio de Radio Libertaire.
Magnifique. Voilà, c'était Christopher Adler, bizarrement un Américain.
Oui, ça, Adler, justement, j'allais te poser la question. Parce que...
qui habite en fait en Thaïlande et qui est devenu grand spécialiste de Karen.
Ah ouais.
Et c'est un disque qui, encore plus bizarre, se trouve sur le label Zadig.
Oui. Oui, ça ressemble effectivement pas énormément à des choses qu'on a souvent passées dans des émissions
de
la péninsule indochinoise authentique.
Ouais.
Et c'est très différent et c'est très beau aussi.
Oui, c'est super d'écouter du Ken un peu en dehors, hors contexte.
Ouais.
Enfin, un petit peu hors contexte.
Parce que ce qui m'intéresse beaucoup, peut-être avec ce que je propose là, c'est de s'apercevoir à quel point il y a une énergie en commun dans tous ces trucs seuls.
Mmh.
L'exercice d'aller faire quelque chose solo avec un instrument qui n'est pas spécialement prédestiné pour ça, ça amène une énergie très particulière, une écoute très particulière. Je ne sais pas si ça vous fait la même chose. Mais...
Ouais. Ouais, oui, tout à fait. Ouais. Ouais.
Bon, vu qu'il reste très peu de temps, en fait,
ouais.
Et j'aimerais bien encore vous faire découvrir quelques bijoux absolus.
Ouais.
J'aimerais bien vous faire entendre une œuvre de Bartok qui est très peu connue parce qu'il est quasiment jamais joué, parce qu'il est très très difficile à jouer à un point que quand c'est la sonate pour solo pour violon seul et qu'il a écrit pour Yehudi Menuhin. Et quand Menuhin lui avait envoyé une lettre, ça y est, je pense que je suis prêt à le jouer, il avait répondu par lettre, ah oui, je suis très content d'apprendre que c'est jouable, que c'est finalement jouable.
Ouais.
Et par contre, après avoir entendu la première de cette œuvre par Menuhin, il a dit, je ne pensais pas qu'on peut jouer aussi bien la musique d'un compositeur pendant qu'il vit encore.
Ouais. Et c'est une œuvre de la fin de sa vie, je crois, quand il était aux États-Unis au début des années 40, non ?
C'est de 44,
c'est
l'avant-dernière œuvre de sa vie. Et
probablement la plus belle œuvre de cette période.
Et absolument, ouais. C'est certainement le dernier chef-d'œuvre qu'il a écrit. Je vous propose d'écouter le deuxième mouvement, je crois, qui est La Fugue.
Thank you.
Si ça, c'est pas classe. Alors. C'est évidemment Yoï de Menerin qui jouait.
Oui.
Ouais. Ouais, c'était pas ma voisine.
Bon, alors, malheureusement, évidemment, comme souvent, c'est trop court. Mais c'est comme ça.
J'avais déjà mis de côté plein de trucs qui semblent évidents pour une émission de solo, genre tous les trucs de Bach, tous les trucs de Berlioz et tout ça.
Oui.
Donc c'est déjà un tout petit choix de tout ce qui est possible. Ouais. Malheureusement, on n'a même pas eu le temps de passer un de mes compositeurs fétiches qui a écrit plein de trucs pour des instruments solo aussi, Giacinto Scelsi, que je vous recommande très fortement. Donc vous le découvrirez pas dans cette émission-là, mais peut-être
on en fera d'autres.
Et Henze aussi, qui nous a amené.
Mais voilà, Tempus
Fugit. Et Ivo Papazov aussi.
Et Ivo Papazov qui a fait une merveilleuse improvisation de solo aussi. Mais qui est beaucoup trop long pour cette émission.
Alors on va terminer avec quoi ?
Là, je propose d'échanger complètement des registres et en même temps, mais il y a toujours, je trouve, cette énergie en commun. Un morceau de Joni Mitchell qui vient de son tout premier disque qui s'appelle Song to a Seagull et le morceau s'appelle Don't Trade.
Voilà, on va avant se quitter, quitter sur Joni Mitchell. Merci beaucoup, Daniel, d'être venu nous voir.
Merci de votre invitation.
Et puis certainement que les morceaux qu'on n'a pas écoutés ce soir, on aura envie de les écouter et puis de les amener. Tu nous les auras soufflés et on les fera écouter aux auditeurs. C'est pour certains peut-être. Plus tard, on verra. Et en tout cas, merci. Et puis, on viendra t'écouter et on annoncera tes concerts quand...
Super.
Voilà.
Merci, les André. Ouais.
De rien, Daniel. Merci.
À la semaine prochaine.
smiling at your circles in the air. I will come and sit by you while he lies sleeping. Fold your fleet wings, I have bought some dreams to share. A dream that you love someone, a dream that